Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour cette édition de Géopolitique consacrée à la diplomatie américaine. Géopolitique rebondit sur la sortie en France du dernier ouvrage de Charles-Philippe David au sein de la Maison Blanche, de Truman à Obama, la formulation imprévisible de la politique étrangère des États-Unis qui vient de paraître aux presses de Sciences Po. Et Géopolitique profite également de la présence à Paris de Dick Howard, philosophe et politologue enseignant à la Stony Brook University de New York. Charles-Philippe David, vous êtes professeur de sciences politiques et titulaire de la chaire Raoul Dandurand à l'Université du Québec à Montréal. Bonjour.
Bonjour madame, bonjour monsieur Raoul.
Et Dick Howard, vous êtes l'auteur de plusieurs ouvrages, dont The Primacy of the Political, la primauté du politique, histoire de la pensée politique des Grecs aux révolutions françaises et américaines, paru aux presses universitaires de Columbia. Également auteur de Aux origines de la pensée politique américaine, de la collection Poche des éditions Hachette. Et vous êtes membre du comité éditorial de la revue Esprit. Bonjour.
Oui, bonjour.
La semaine qui s'achève a été marquée par un impressionnant mais non exceptionnel ballet diplomatique, rencontre entre l'Amérique John Kerry et le président russe Vladimir Poutine à Sotchi, sur fond de crise syrienne, détour par la Turquie pour une réunion des ministres des Affaires étrangères des pays de l'OTAN, puis retour aux États-Unis pour le sommet de Camp David avec des diplomates des pays du Golfe. L'histoire retiendra sans doute que c'est sous la présidence du chef de l'État américain, a priori le moins mal disposé à l'égard de la Russie depuis George Bush père, que s'est produite la dégradation la plus spectaculaire des relations bilatérales après la guerre froide. On est passé de l'annonce début 2009 à Munich par le vice-président Joe Biden de la politique de reset à une déclaration de Barack Obama devant l'Assemblée générale de l'ONU en septembre dernier, plaçant la Russie avant Daesh dans l'ordre des menaces pour le monde. Charles-Philippe David, comment en est-on arrivé là ?
Bien, je vous dirais que la politique étrangère d'Obama fait preuve à la fois de continuité et de discontinuité. En effet, c'est certainement une grande continuité avec plusieurs des politiques précédentes des présidents qui étaient à la Maison-Blanche avant lui, et notamment celui qui était là juste avant lui, George W. Bush, notamment sur le plan militaire. Il y a plusieurs affinités quand même entre ces deux présidences, la lutte contre la torture, vous parlez du groupe armé État islamique, Obama en réalité est tout à fait bouché dans sa réaction vis-à-vis du groupe armé, avec les bombardements, avec le recours aux drones armés, avec l'assassinat ciblé, soit individuel ou soit des assassinats de signature contre des cibles de ce groupe armé, à la fois en Irak et en Syrie. Donc sur ce plan, je dirais, il y a quand même pas mal de continuité, et évidemment il y a des discontinuités. Vous avez soulevé l'une d'entre elles. C'est un président qui, sur les 6 dernières années, croit beaucoup plus que son prédécesseur à la diplomatie, croit beaucoup plus au multilatéralisme tout de même. Et dans la crise que vous avez évoquée sur la Russie, c'est un président qui, au départ, voulait changer la donne. On a parlé de la politique du reset, donc d'un nouveau départ. Par contre, cette politique a échoué. Et en fait, sa secrétaire d'État, Hillary Clinton, d'ailleurs, l'avoue bien candidement dans ses mémoires, les bonnes intentions y étaient, mais les preuves ont démontré que ça ne pouvait pas marcher. Et le retour de Poutine, d'ailleurs, au Kremlin, a fait en sorte que la politique s'est durcie de part et d'autre. Et aujourd'hui, bref, on est retour un peu à la case départ des administrations précédentes, c'est-à-dire beaucoup de méfiance quand même vis-à-vis de la Russie. Peut-être pas le retour de la guerre froide, mais en tout cas, un refroidissement certainement des relations entre les deux pays. Donc, que nous réserve l'avenir? Très difficile de savoir. À la fois sur la question ukrainienne et de Crimée, je dirais que le mal est fait. Je ne pense pas que cette administration voudra risquer la totalité des relations entre les États-Unis et la Russie pour en découdre avec cette dernière et régler d'une manière plus musclée ce problème ukrainien. Donc je crois qu'on restera dans une sorte de statu quo jusqu'à temps qu'un nouveau président ou la nouvelle présidente soit en poste à la Maison-Blanche l'an prochain ou dans 2 ans. D'autre part, on voit que les tentatives de quand même amener la Russie à régler certains dossiers avec les États-Unis, je pense à l'Iran et au nucléaire, montrent bien que cette relation-là demeure quand même fondamentale, demeure importante, et que cette administration n'est pas prête à tout risquer pour se faire de nouveau un ennemi juré de la Russie. La preuve étant d'ailleurs que John Kerry était à Moscou. C'est la première fois en 2 ans qu'un haut officiel américain de ce niveau, président ou secrétaire, se rendait à Moscou pour rencontrer Poutine. Donc il y a à la fois dialogue et tensions dans cette relation que vous avez évoquée.
Dick Howard, un commentaire sur ce que vient de dire Charles-Philippe David. La relation américano-russe, une relation importante, est-elle prioritaire, point d'interrogation?
Je pense qu'il faudrait distinguer entre le premier et le second mandat d'Obama. Nous sommes quand même au mi-terme du deuxième mandat. Mmh. Je crois que les choses sont en train de changer. Et d'autre part, il faut aussi, pour la Russie, se souvenir que le reset devait avoir lieu alors que Medvedev, une figure plus libérale, entre guillemets, occupait la présidence. Quand Poutine est revenu, ça a été autre chose. Mais je voudrais aussi attirer l'attention sur ce qui se passe au niveau domestique. J'ai parlé du deuxième mandat Obama. Je crois que les choses sont en train de changer de façon assez évidente depuis que les Républicains ont pris le Sénat et depuis que M. McConnell, le président du Sénat, lui qui avait dit au début de la présidence Obama, mon but pendant cette présidence, c'est de faire en sorte qu'Obama ne soit pas réélu. Tout d'un coup, M. McConnell, d'après le New York Times il y a trois jours, se fait inviter à la Maison-Blanche, bavarde avec M. Obama, etc. Et donc, il semble que les choses sont en train de changer. Mais, il y a toujours un mais dans ces affaires-là, mais est-ce que les républicains, donc la droite au Congrès, est-ce qu'ils vont être d'accord avec cette accommodation qui est en train de se mettre en place entre les leaderships du Congrès et M. Obama? Et ça, autour d'une part des rapports avec l'Iran, la question nucléaire iranienne, et aussi avec ce qui est en train de se passer avec la Russie, notamment les pré-négociations entre M. Kerry d'une part et M. Poutine d'autre part, qui ont eu lieu à Sochi, je crois, mardi de cette semaine.
Alors, vous parliez l'un et l'autre, Charles-Philippe David et Dick Howard, de l'Iran. Ce à quoi l'on assiste à l'évidence en ce moment, c'est à une sorte de changement, j'ai envie de dire, des priorités de la politique américaine, éloignement d'avec l'Arabie Saoudite, qui va donc de pair d'une certaine manière avec le rapprochement avec l'Iran. À quelques jours du premier tête-à-tête entre un président américain et un dirigeant cubain, Obama lui-même décrivait sa doctrine en politique étrangère par ces mots, ouverture d'un côté, préservation des capacités de l'autre. Quelle analyse faites-vous, Charles-Philippe David, de cette déclaration?
Je pense qu'il faut être très nuancé dans nos propos et dans nos analyses. C'est jamais simple, la politique étrangère américaine. C'est d'ailleurs ce que j'ai essayé de faire dans les deux livres que nous publions aux presses de Sciences Po, La Maison Blanche d'une part et le manuel sur la politique étrangère des États-Unis, de montrer la grande complexité de cette politique étrangère. Alors, voyez, vous mentionnez l'Arabie Saoudite. Voilà une relation tout à fait spéciale, à la fois effectivement qui donne lieu à des tensions régulièrement de part et d'autre, pour toutes sortes de bonnes raisons, lutte contre le terrorisme, la position de l'Iran dans la stratégie américaine et les réactions de l'Arabie Saoudite. Et puis, la nécessité de préserver cet important allié, parce que l'Arabie Saoudite, évidemment, est un allié très important des États-Unis, à la fois pour des raisons énergétiques, mais aussi pour la lutte aussi contre le terrorisme et la stabilisation de la région. Et l'Arabie Saoudite, d'ailleurs, est un allié actuellement des États-Unis dans la chute des cours du prix du pétrole, pour justement, notamment, faire mal à la Russie et faire mal à l'Iran. Maintenant, c'est pas quelque chose qui est dit publiquement. Je suis assez certain qu'il y a collusion entre ces deux pays sur cette question. Pensez au Yémen aussi, l'intervention saoudienne avec quelques alliés du Golfe Persique au Yémen, bien sûr, a reçu l'aval et l'aide des États-Unis. Donc, on peut certainement imaginer que là-dessus, les deux pays soient totalement alignés sur des positions assez similaires. Ils ne le sont évidemment pas, vous l'avez souligné, sur la question iranienne. Maintenant, en même temps, la position américaine sur l'Iran dépasse la relation avec l'Arabie Saoudite parce qu'il y va de la stabilité de toute la région. Et il est dans l'intérêt de pas mal tout le monde que l'Iran, l'échéancier de construction éventuellement d'une arme nucléaire soit repoussé le plus loin possible. Et c'est ce que cet accord a essayé et essaie d'obtenir. Le diable, évidemment, est dans les détails. Alors, on verra si au mois de juin, on arrivera à un accord technique qui satisfasse tout le monde. Mais là-dessus, la stratégie américaine sous Obama a été assez, je pense, assez ferme et assez a fait preuve de continuité depuis l'arrivée d'Obama. l'idée d'un accord avec l'Iran a toujours été une pièce centrale, je dirais, de cette politique étrangère. Et d'ailleurs, je rebondis sur les commentaires de M. Howard sur la politique intérieure. Je dirais que dans ce domaine, Obama a pas mal écoudé franche. On a craint et on craint toujours qu'il y ait un déraillement de cet accord avec l'Iran par le Sénat républicain. Mais en réalité, on se rend compte de plus en plus qu'on arrive petit à petit, tant bien que mal, à surmonter les différends et les points de vue divergents entre le Congrès et la présidence, parce qu'en ce domaine, en réalité, le président a pas mal de pouvoir. Bien qu'il n'a pas le pouvoir de lever l'embargo, ni contre l'Iran, ni contre Cuba, d'ailleurs, il peut tellement faire beaucoup d'autres choses, par ailleurs, que, je vous dirais pas c'est tout comme, mais il y a quand même une liberté d'action exécutive qui va créer, dans les faits, à la fois une ces bases d'un accord peut-être durable avec l'Iran et d'autre part créer de toutes pièces les éléments du rapprochement et finalement de la levée de l'embargo contre Cuba qui sera inéluctable. Alors Obama a pas mal écouté franche et je termine là-dessus en disant ce qui est la preuve du pouvoir exécutif, c'est bien que depuis l'élection du Congrès républicain dans les deux chambres en novembre dernier. On dirait que ce président a une politique étrangère encore plus affirmée, plus ferme, plus indépendante du pouvoir législatif que cela n'a été le cas avant les élections de novembre 2014, alors qu'il contrôlait une des deux chambres. Alors, c'est vous dire la complexité du système américain. Quand le président et les chambres qui ne sont pas de la même coloration politique font en sorte qu'on s'attendait à une adversité féroce et peut-être la surprise sera que Obama dispose de beaucoup plus marge de manœuvre que l'on l'aurait anticipé.
Vous écoutez RFI, Marie-France Chatin.
Donc politique plus indépendante, je retiens ce que vient de dire Charles-Philippe David. Je me tourne vers vous, Dick Howard. Il est vrai aussi que Obama n'a plus rien à perdre, pas le droit à un troisième mandat, donc il joue son va-tout quelque part.
Il joue son va-tout, il joue aussi son héritage, et son héritage dépendra aussi évidemment des élections de 2016. Mais je voudrais revenir sur l'analyse de Monsieur David, parce que à la fois, il a raison pour ce qui est de la structure institutionnelle, mais si on regarde le jeu politique, comment ça fonctionne? Comme Monsieur David a dit au tout début, il a l'idée de retrouver le multilatéralisme, il a eu cette fameuse parole de leadership de par l'arrière, n'est-ce pas? On ne va pas se mettre devant. Regardez ce qui s'est passé, par exemple, pour ce qui est des printemps arabes. C'était pas peut-être son moment le plus glorieux. Toujours est-il qu'il a cette idée de multilatéralisme, mais ça rentre en contradiction, donc, avec la politique des républicains. Car, en effet, si vous êtes républicain, qu'est-ce que vous allez dire sur la politique étrangère d'Obama? Vous allez dire que tous ces problèmes avec la Russie, toute cette traité qui ne va pas tout à fait bien avec l'Iran, cette visite de M. Netanyahou au Congrès, tout ça, ça vient de quoi? Ça vient de la faiblesse d'Obama. Donc, comment est-ce que vous allez à la fois revenir au multilatéralisme et d'autre part faire face à cette accusation d'être trop faible? Donc je crois que c'est peut-être là la contradiction principale que n'a pas réussi à défaire Monsieur Obama. Et puis je reviens plus en détail si vous voulez sur les questions de l'opposition et de la dynamique politique. Pour ce qui est du traité par exemple avec l'Iran, vous aviez eu cette fameuse lettre d'un junior sénateur, M. Cotton, qui a été signé quand même par 47 sénateurs qui menaçaient de faire couler le traité. D'ailleurs, il ne s'agit même pas d'un traité, il s'agit d'un agrément. Mais toujours est-il, on ne savait pas pourquoi ils étaient opposés. Ils étaient opposés en dernier lieu pour des raisons de politique domestique et de positionnement vis-à-vis des élections à venir dans 16-17 mois 2016. Donc, la dynamique institutionnelle que décrit très bien Monsieur David, est une chose et la dynamique politique en est une autre.
Alors, Charles-Philippe...
Je me permets de rebondir sur la dynamique politique. Monsieur Howard a raison aussi, certainement. Mais en même temps, ce jeu intra-institutionnel au Congrès affecte-t-il vraiment le cours de la politique étrangère au final? Je me permets d'émettre des réserves ou des doutes. D'ailleurs, même le président du comité des affaires étrangères du Sénat, Monsieur Corker, a finalement rabroué, a désavoué à toute fin utile cette lettre de ses 47 collègues qui ont écrit à l'Ayatollah Khamenei. Donc, en quelque part, je pense que le président Obama a pas mal, je le répète, les coups des franches, à mon avis, pour sceller un accord avec l'Iran. D'autant que, deuxième et dernière remarque, l'opinion publique américaine est tout de même... globalement, moins divisé que ne le sont les républicains eux-mêmes entre eux, d'une part, et entre républicains et démocrates, d'autre part. L'opinion publique américaine, majoritairement, saluera l'initiative de paix avec l'Iran si elle est conclue par un accord qui semble raisonnable.
Si tant est que l'Israël soit d'accord. Il y a quand même
oui,
le rôle de lobby Israël.
De repousser la question de la prolifération nucléaire et les risques de dérapage au Moyen-Orient. Je pense que, oui, vous avez raison, le facteur israélien et l'influence du lobby seront toujours très puissants, mais à la fin de la journée, je pense, je prédis que l'opinion publique américaine se ralliera à cet accord parce qu'on se dira, mais quelle est l'alternative? La plupart des experts, de toute façon, aux États-Unis, crient très haut et très fort sur toutes les tribunes que cet accord est quand même la moins imparfaite de toutes les solutions envisageables parce que les autres sont pires encore. Donc, je pense que Obama, s'il joue habilement ses cartes et s'il a le soutien du président du Comité des Affaires étrangères républicain du Sénat, à mon avis, réussira à faire avaliser par le Congrès dans les 60 jours cet accord.
Je souhaiterais que mes concitoyens soient aussi rationnels, aussi dépassionnés que ne l'est Monsieur David. Monsieur David parle de l'opinion américaine. Il est vrai, quand on prend quelque chose de nébuleux comme l'opinion, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, je regarde les interactions des uns et des autres. Prenons un exemple tout à fait bizarre, l'histoire qui s'est déroulée la semaine passée, l'armée américaine veut faire des exercices de préparation militaire dans plusieurs États. Le gouverneur de l'État du Texas appelle la garde nationale, enfin la garde nationale de son État, parce que la rumeur dit que l'armée américaine prépare un coup. Il y a de l'irrationnel, du passionnel chez ce pays, et surtout quand il s'agit effectivement de politique étrangère où cette fameuse opinion ne saurait pas vous dire où se trouve le Mali, pas plus qu'elle ne saura où se trouve, je ne sais pas, l'Argentine.
Vous voulez dire qu'il a été pensé à une sorte de coup de...
Vous me permettez d'ajouter un petit mot. Je pense que Dick a raison sur les minorités agissantes et irrationnelles de la politique américaine. Il y en a pas mal du côté républicain déjà, et on aura une bonne idée de ça quand la campagne va vraiment démarrer avec plusieurs de ces candidats qui sont, entre nous, assez radicaux. De Mike Huckabee, par exemple, jusqu'à Ted Cruz, il est évident qu'on va entendre ce que Dick Howard, ce dont Dick Howard parle, c'est-à-dire toutes ses réactions émotives sur la position américaine dans le monde et les différents sujets qu'on aborde. Mais quand je me réfère à l'opinion publique, quand vous regardez les sondages du Pew Research Center, je suis certain que les conseillers politiques de la Maison-Blanche les ont bien lus, les ont bien regardés. Quand il s'agit de stabilité et d'amener donc moins de risques pour les États-Unis, dans certaines régions du monde, l'opinion publique sera toujours plus conservatrice. La grande majorité est silencieuse, auquel on a toujours fait référence dans ces cas-là, démontre qu'un accord avec l'Iran, s'il est minimalement crédible, amènera ou entraînera un ralliement de l'opinion publique derrière Obama, bien que les républicains, certains d'entre eux, voudront prétendre le contraire.
Dico Vand, rapidement, pour terminer cette première partie d'émission.
Oui, non, il y a une chose qui est frappante. On nous a dit, depuis ma toute jeunesse, et je suis pas si jeune que ça, que la politique s'arrêtait au bord de l'océan. C'est-à-dire qu'on n'allait pas justement porter nos querelles domestiques sur des questions de politique étrangère. J'ai l'impression, malheureusement, que cela est en train de changer. Et ça pourrait changer pour le pire, me semble-t-il. Mais ça, c'est une chose à regarder au fur et à mesure des 16 mois avant les élections de novembre 2016.
Géopolitique, nous retrouvons...
Sur l'Iran, je suis moins pessimiste. Qui peut prédire où on en sera dans un an?
Oui.
Je pense que...
Charles-Philippe David, je suis désolée, on interrompt pour la première partie de l'émission. Géopolitique, nous retrouvons nos invités Charles-Philippe David et Dick Howard dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur la politique étrangère américaine. Nous retrouvons nos invités, Charles-Philippe David, professeur de sciences politiques et titulaire de la chaire Raoul Dandurand à l'Université du Québec à Montréal et auteur de « Au sein de la Maison Blanche, de Truman à Obama, la formulation imprévisible de la politique étrangère des États-Unis » et Dick Howard, philosophe et politologue, enseignant à la Storybrooke University de New York, auteur d'un certain nombre d'ouvrages dont « Aux origines de la pensée politique américaine » dans la collection Poche des éditions Hachette. Charles-Philippe David, vous définissez dans votre ouvrage la politique étrangère d'Obama sur la période 2009-2014 comme une politique calculatrice. C'est aussi une politique calculatrice que celle qui est menée depuis 2014?
Ah, tout à fait. Je pense qu'Obama est tout à fait fidèle à son style présidentiel, à son caractère, à son apprentissage, à la sorte de président qu'il est, d'homme politique qu'il est. Je pense que c'est, vous l'avez bien résumé, c'est un calculateur. Je pense qu'il mesure à chaque fois les conséquences, les effets de ses décisions. Et c'est d'ailleurs ce qui rend très difficile l'analyse que nous faisons de la politique étrangère d'Obama, c'est qu'elle est très variable. Elle peut changer d'un dossier à l'autre, elle peut changer sur un seul et même sujet d'une année à l'autre. Il peut être un partisan du recours à la force et en même temps accepter un prix Nobel de la paix en déclarant qu'il est très important d'œuvrer en ce domaine. Vous avez un président capable d'unilatéralisme. Il l'a fait certainement en tous les cas quand ce fut le moment d'assassiner Ben Laden. Et en même temps de multilatéralisme lorsqu'il s'agit de conclure des traités de libre-échange ou d'accords commerciaux, de mener l'opération, comme l'a soulevé M. Howard, d'opération discrète, de leadership discret face à la Libye. Par contre, donne dans la contradiction lorsque, justement, il est d'accord pour une intervention en Libye, mais n'est pas d'accord et fuit à tort ou à raison l'intervention en Syrie, prétextant qu'il lui faut l'accord du Congrès, d'ailleurs, un accord qu'il n'a pas demandé dans le cas de la Libye. Et un an plus tard, nous revient avec une forte justification pour intervenir contre le groupe armé État islamique en Irak et en Syrie, et cette fois de manière unilatérale, sans demander vraiment l'accord du Congrès. Puis 6 mois plus tard, dit il faudra quand même l'accord du Congrès un jour. Donc, vous voyez, c'est un président qui calcule constamment les effets politiques de ses décisions. Et tous les comptes rendus que nous avons pu lire, allant de ceux de Robert Gates, son ancien secrétaire à la Défense, aux mémoires de Mme Clinton, à ceux beaucoup moins connus et beaucoup moins lus, peut-être en France, de Léon Panetta, son ancien directeur de la CIA et secrétaire à la Défense, qui, à mon avis, révèle beaucoup de choses sur la prise de décision du président Obama, sont unanimes pour dire que c'est un président cérébral, c'est un président qui réfléchit beaucoup, délibère énormément, mène sa politique étrangère, car c'est lui qui prend les décisions et personne d'autre. Ce n'est pas l'ère de George W. Bush. Donc, vous ne pouvez pas prédire, effectivement, d'un dossier à l'autre, d'un sujet à un autre, quelles seront les décisions de Barack Obama. Donc, alors voilà ce qui donne pour moi un président calculateur et une politique étrangère imprévisible.
Dick Owen.
D'autres diraient que ce que vous appelez président calculateur est un président inconsistant, sinon en contradiction avec lui-même. Et il faudrait se demander quand est-ce que cette calculation, entre guillemets, est une vertu et en d'autres moments, est-ce que c'est justement une manière de esquisser des problèmes. Je donne un exemple qui me frappe. Son délégué aux Nations Unies est une femme qui s'appelle Samantha Power, qui a écrit un livre qui a bouleversé tout le monde sur justement les génocides, les massacres qu'on a approuvés par calculation dans d'autres administrations. Et Samantha Power devait peut-être devenir sa secrétaire d'État à un moment, mais elle a eu des problèmes avec lui. Toujours est-il, je n'ai jamais réussi à comprendre comment il pouvait rester fidèle à Samantha Power, qui a quand même les membres de son cabinet. Donc, c'est pas une position hors du pouvoir. Mais d'autre part, cette calculation constante me gêne. Je ne vais pas dire, par exemple, qu'on devrait revenir à une politique des droits de l'homme du genre Jimmy Carter dans les années fin des années 70, mais il faudrait quand même qu'il y ait des lignes quelconques. Et c'est ça qui est absent chez Obama, et c'est ça qui me dérange beaucoup. Pour le détail, je suis peut-être pas d'accord avec X, Y ou Z de ces calculations, mais ce qui me gêne le plus, c'est finalement, il n'a pas de... Disons-le autrement, les gens disent de lui, il a des préférences, mais il n'a pas des convictions. Et ses préférences sont, à mon sens, souvent les bonnes, mais il n'a pas de convictions pour les mettre en œuvre. Du coup, il calcule.
Est-ce que l'on sait, Charles-Philippe David, qui est finalement le véritable Obama? Et au-delà de cela, sur la base de ce que vous venez de dire, l'un et l'autre, comment est-ce qu'une décision est prise?
Vaste chantier, madame. En résumé, je vous dirais, certaines caricatures, en France, vous devez connaître, vous savez, la vieille série Star Trek où on compare le président Obama à Spock. C'est vrai que ce personnage de Spock, d'abord, Obama lui ressemble un tout petit peu parce qu'il a de grandes oreilles comme Spock. Mais il a aussi cette allure très cérébrale. Ce n'est jamais quelqu'un porté sur l'émotion. D'ailleurs, quand Obama est porté sur l'émotion, ça devient presque viral sur la toile parce qu'on découvre alors un être humain tout à fait charmant, tout à fait sympathique. Mais cela est très, 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 très rare quand il s'agit de prise de décision à la Maison-Blanche. Sur tous les dossiers, Obama est un président qui délibère. Alors, je pourrais donner raison à M. Howard et dire, ça manque de constance. Maintenant, Obama lui-même vous dirait, cher professeur, ce qui pour vous paraît un manque de constance, pour moi, est une preuve d'intelligence. C'est-à-dire, je suis assez nuancé et assez modéré pour pouvoir comprendre que le monde dans lequel nous vivons est complexe et qu'on ne peut maintenir une seule ligne, une seule doctrine, une seule formule de politique étrangère et l'appliquer dans tous les dossiers, tous les domaines, toutes les régions et tous les enjeux du monde. Et après tout, si vous préférez la constance de mon prédécesseur George W. Bush, vous aurez peut-être l'humilité de reconnaître que les erreurs qui ont été commises dans la politique étrangère américaine de George W. Bush ont peut-être fait plaisir en termes de constance, mais ont certainement nui au rôle des États-Unis dans le monde, à son économie et à ses capacités. Alors, il vous dira peut-être ce qu'il y a d'intelligent dans ma politique étrangère et d'éviter justement ce genre d'erreurs épouvantables qui ont nui terriblement aux États-Unis. Alors, qui écoute-t-il? Il écoute tout le monde. Et d'ailleurs, dans mon livre, j'explique par exemple la prise de décision sur l'Afghanistan.
Oui.
Il n'y a jamais eu autant de réunions que je ne sache depuis longtemps à la Maison-Blanche sur la prise de décision sur quoi faire et que faire de l'Afghanistan que durant la première année du mandat Obama. 19 réunions en tout du Conseil de sécurité nationale.
Et des journées entières de débat.
Tout le monde s'est exprimé. Mais c'est Obama, au final, et à la fin de la journée, qui a décidé de ce qu'allait être cette position des États-Unis face à cette région ou à ce pays. Sur Samantha Power, je vous dirais, Samantha Power est une voix parmi d'autres. Obama, je pense, apprécie énormément ses talents intellectuels et sa vivacité et son argumentaire ferme que Mme Power, qu'on connaît bien, amène dans les cercles décisionnels, mais elle n'est pas seule. Et l'ambassadrice aux Nations Unies, honnêtement, n'a jamais pesé fort dans la prise de décision au plus haut niveau. Et évidemment, quand vous avez devant vous des gens comme Robert Gates, ou aujourd'hui, vous avez Ashton Carter, ou encore vous avez des directeurs de la CIA qui ont été assez puissants, les chefs militaires, ainsi de suite, surtout les Obamiens, on n'en a pas parlé, tous ces agents politiques autour de la Maison-Blanche, comme Dick Howard le disait, leur seul souci, c'est de savoir comment les décisions de politique étrangère vont avoir un effet sur la politique intérieure. Tout cela fait en sorte que Mme Power n'est qu'une seule voix parmi plusieurs, et elle a, on le sait maintenant, poussé vigoureusement pour une intervention en Syrie, comme d'ailleurs Susan Rice, son actuelle conseillère à la sécurité nationale, aussi l'a fait. Même John Kerry a fait des représentations en ce sens. Léon Panetta avoue et écrit dans ses mémoires qu'il a mis un plan très clair d'intervention sur la table du bureau Oval, mais le président Obama a refusé et a écouté plutôt d'autres personnes qui étaient d'avis que d'intervenir en Syrie. C'était une erreur, aussi dommageable que celle de George W. Bush en 2003 en Irak. Alors, c'est en ce sens-là que c'est imprévisible. Ça se joue tous les jours. Oui, Dick Howard a raison de dire que ça manque de constance. Vous savez quoi? La politique étrangère américaine manque de constance, après tout, depuis que les États-Unis sont une superpuissance. C'est pas quelque chose de très très nouveau.
Dick Howard.
Écoutez, cette politique calculatrice, si je peux dire, me rappelle un homme d'État français, le cardinal de Ré, qui disait toujours « Dès que vous sortez de l'ambiguïté, vous êtes perdu ». Mais moi, je pense au contraire qu'en ce qui concerne la formulation d'une politique étrangère, il s'agit justement d'avoir certains principes. Je ne suis pas en désaccord avec les principes de George W. Bush, par exemple, mais je suis en fort désaccord avec la manière dont il les a mis en œuvre. Ça, c'est une autre question. En général, l'analyse de Monsieur David me paraît tout à fait intéressante, sauf que c'est une analyse rétrospective. Et en rétrospection, on peut expliquer tout. Donc, rétrospectivement, oui, ça paraît calculateur, ce président. Mais si j'évalue une politique étrangère, je veux savoir quels sont les principes qui l'animent et ensuite comment est-ce qu'on met en œuvre ces principes. Je veux savoir ce qu'il y a dans le système américain. Je reviens au livre de Monsieur David, qui est un livre, faudrait que tout le monde ait dans sa bibliothèque. Ça explique beaucoup, beaucoup de choses sur ces institutions américaines. Mais ce qui me semble absent, c'est justement un sens de la dynamique de ces affaires-là. Je me trompe peut-être, mais c'est comme ça que je vois la chose. Et je reviens encore une fois au cardinal de Ré. Dès qu'on sort de l'ambiguïté, on est perdu. Mais justement, une bonne politique étrangère, une politique étrangère démocratique au lieu d'une politique étrangère du genre de la France monarchique, ça devrait être autre chose, me semble-t-il.
Alors, Charles-Philippe David,
Attendez, je veux rebondir sur cette question. Je vais vous expliquer quelque chose. Je pense que les deux ne sont pas incompatibles du tout. Finalement, c'est un peu comme l'archéologie. Alors, votre archéologue, il va d'abord prendre une pelle pour dépoussiérer un peu le terrain parce qu'il se doute qu'il y a quelque chose d'intéressant qui se cache sous terre. Alors, il y a besoin d'une pelle pour déblayer un tout petit peu le terrain. Je pense que les principes, c'est un peu l'équivalent d'une pelle. Ça vous donne un sens très général de la direction de la politique étrangère des États-Unis. Mais après ça, il faut prendre son pinceau et un petit peu dépoussiérer morceau par morceau ce que vous retrouvez dans le sol. L'équivalent de ce que j'appelle, moi, mon coup de pinceau pour trouver et comprendre le détail de la politique étrangère américaine, c'est la question suivante. Ne me dites pas quels sont les principes. Dites-moi qui conseille le président. Dites-moi qui sont les décideurs autour et qui décident avec lui. Et je vous dirai peut-être ce qui se passe un peu plus dans le détail pour chacun des dossiers que nous abordons. Et je pense que c'est cette complexité-là qui déroute un peu tout le monde et qui fait que on se demande toujours... Pour chaque président, c'est chaque président, mais quelle est sa doctrine, quels sont ses principes, en quoi croit-il profondément?
Alors, de tout ce que vous venez de dire l'un et l'autre, la question que j'allais vous poser, Charles-Philippe David, qui était de savoir si une idéologie animait Obama, quelle réponse pouvez-vous faire?
Je vous dirais l'idéologie de l'intelligence. Si vous demandiez à Barack Obama lui-même comment définir en un mot sa politique étrangère, je pense qu'il n'en serait pas capable. Je pense qu'il n'aurait pas un mot pour définir cette politique étrangère, sauf de dire, j'espère, la plus intelligente possible. Parce que dans ses discours, combien de fois revient-il sur l'idée que c'est trop facile de résumer en une seule phrase ou en un seul slogan cette politique étrangère? À titre d'exemple, l'une des rares fois où il s'est fâché, c'est dans un avion de retour d'Asie, où il a dit aux journalistes... Vous êtes toujours en train de me dire que le recours à la force est une bonne solution dans un cas ou dans un autre. Il a expliqué que cela était trop facile et que cela entraînait plus de problèmes, bien souvent, que de bénéfices. Et je pense que ce moment-là révélait donc toute la complexité et la nuance qu'on retrouve chez ce président. Maintenant, une fois que je l'ai dit cela, l'intelligence n'est pas gage des meilleures prises de décision. C'est pas parce que vous avez une personne intelligente à la Maison-Blanche que vous avez nécessairement le meilleur jugement. Mais je dirais l'intelligence. Je pense que c'est ça qui anime la raison d'être de la prise de décision d'Obama à la Maison-Blanche.
Alors, Dick Howard, quand Barack Obama lui-même affirme que les États-Unis ne resteront pas prisonniers de leur passé, est-ce que c'est une lecture que l'on peut avoir finalement de la politique d'Obama sur le plan étranger extérieur?
Je crains que non. Je crains qu'il était débordé par des questions de politique étrangère, il n'arrivait pas à comprendre tous les enjeux. Et effectivement, M. David a raison, il était entouré de gens très intelligents, mais qui avaient des opinions assez différentes. Ce qui m'amène à poser finalement cette question. Est-ce que c'est comme M. David a dit, dites-moi qui sont les décideurs et je dirai la politique, ou est-ce que on ne devrait quand même pas oublier que nous sommes dans un système capitaliste qui a vécu une crise depuis 2008, dont les choix sont déterminés par des questions du chômage, des questions d'échange avec l'étranger, des questions commerciales, et puis en dernier lieu aussi, on a parlé un peu des rapports avec le Proche-Orient, mais il ne faut pas oublier non plus que c'est depuis 3 ans, je crois, que les États-Unis sont autosuffisants en ce qui concerne le pétrole, ce qui tout d'un coup change radicalement les enjeux, surtout en ce qui concerne nos rapports avec l'Arabie Saoudite, mais aussi, n'oublions pas, le Qatar qui vient d'acheter des avions à la France parce que justement le Qatar veut affirmer son indépendance, etc.
Donc les moyens finalement, c'est cela qu'il faut retenir aussi. Les États-Unis ont aujourd'hui les moyens d'une politique plus indépendante que jamais. Oui. Charles-Philippe David.
Écoutez, pour conclure, je crois qu'il y a toutes les chances que, ma foi, on soit tous surpris de se reparler, et pourquoi pas, c'est un rendez-vous que je vous sollicite, peut-être dans 5-6 ans, et qu'on se dise, Obama, ce mal-aimé, n'est ni mieux ni pire qu'un certain Bill Clinton quand il a quitté la Maison-Blanche. Et mon Dieu qu'on se souvient, pour les, disons, moins jeunes d'entre nous déjà, combien Bill Clinton était un président qui a divisé, qui a polarisé. D'ailleurs, si son épouse devient présidente des États-Unis, je vous gage que peut-être le même phénomène va se reproduire. Mais c'est un président qui a divisé, polarisé profondément la société américaine. Or, pourtant, quand il quitte en 2000, la plupart des Américains auraient bien souhaité qu'il reste pour un troisième mandat parce que les indicateurs auxquels Dick Howard fait référence, indicateurs économiques, par exemple, étaient de nature assez positive et optimiste pour convaincre la plupart des Américains que pourquoi fallait-il vraiment changer de président? La Constitution l'oblige, mais eux auraient bien peut-être aimé conserver Clinton. Pourrions-nous peut-être imaginer qu'un jour on dise que Obama est un tout petit peu la réplique d'un Bill Clinton? Quand il quittera la Maison-Blanche, finalement, les gens peut-être se diront que les choses n'étaient pas si mal à la fin de sa présidence comparé à ce qui peut suivre ou à son prédécesseur. Alors, je vous dirais, attention à ce qu'on retiendra de cette présidence. Il est bien évident qu'il y a eu beaucoup d'échecs, on les a mentionnés. Il y a quand même eu des succès. Ce que Dick Howard a dit sur la relance de l'économie américaine en 2009, ce n'était pas chose acquise du tout. La réforme, évidemment, Affordable Care Act, ce qu'on appelle Obamacare, qui a divisé profondément les États-Unis, je pense que c'est un acquis. Je ne crois pas qu'on va remettre en question Obamacare. Et peut-être un jour, on se souviendra d'Obama, comme on se souvient aujourd'hui de Lyndon Johnson, qui a amené Medicare, Medicaid et les food stamps. Et aujourd'hui, c'est un acquis pour la société américaine. Alors, j'essaie d'être un petit peu optimiste.
Dick Howard, votre contribution à la conclusion?
Je trouve que M. David, encore une fois, fait une très belle analyse rétrospective. Et moi, ce qui me préoccupe, c'est la prospective. C'est-à-dire, finalement, qu'est-ce qu'on peut apprendre qui nous aidera à nous retrouver dans ce monde constamment changeant. Il n'y a pas de désaccord majeur. Il y a un désaccord qui est vraiment... C'est peut-être nos deux métiers qui nous conduisent à ce genre d'analyse. Moi, je tiens quand même à comprendre la dynamique prospective de la politique. Voilà.
Vous serez réinvité pour une prochaine édition de Géopolitique dans la perspective des élections américaines. Merci, c'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités. Charles-Philippe David, professeur de sciences politiques et titulaire de la chaire Raoul Dandurand à l'Université du Québec à Montréal et auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier, ou l'un des plus récents en tout cas, publié en France aux presses de Sciences Po. L'ouvrage s'intitule « Au sein de la Maison Blanche, de Truman à Obama, la formulation imprévisible de la politique étrangère des États-Unis ». Et Dick Howard, philosophe et politologue, enseignant à la Stony Brook University de New York, auteur également de nombreux ouvrages, dont « Aux origines de la pensée politique américaine » dans la collection Poche des éditions Hachette. Et je signale également cet ouvrage pour aller un peu plus loin, « Obama versus Clinton, la guerre des clans » d'Edward Klein, paru en France aux éditions Hugo et compagnie. Vous pouvez retrouver l'émission sur le site site internet de RFI, www.rfi.fr, ou également sur Facebook, Géopolitique, le débat, émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Nathalie Laporte. Demain, Géopolitique reviendra sur les questions liées au climat à 6 mois de la conférence de l'ONU qui se tiendra à...